Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Judaïka et vous avez fait le bon choix. Fidèle au poste, votre rendez-vous quotidien de culture et de pop culture, de bizarre, d'étonnement, de curiosité. Avec aujourd'hui une rencontre avec le créateur d'un roman graphique passionnant, Le Rapport W. Et puis nous nous poserons la question très sérieuse du rapport entre Chuck Norris et Israël. C'est le moment Shirim, la chanson israélienne. Aujourd'hui chantée par Guy Digov.
Ti amo, ya yo yo chi ya, sarà la cara va che va che va te.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Au départ, il y a un document historique tout à fait saisissant, un rapport d'un combattant, un résistant polonais qui se fait enfermer volontairement à Auschwitz pour organiser la résistance à l'intérieur du camp au moment où il y aurait une libération de ce camp. Finalement, ça ne vient pas. Il finalement s'évade. Ce rapport, ce document historique ne nous est connu que depuis finalement quelques années, bien plus tard, 70 ans plus tard. Et puis, au-delà de l'histoire, un artiste s'empare de cette histoire incroyable, de ce rapport incroyable, pour en faire une œuvre et un roman graphique époustouflant. Pour en parler, Gaëtan Hoc, son dessinateur. Bonjour.
Bonjour.
Votre livre, votre roman graphique s'appelle « Le rapport W, infiltré à Auschwitz ». Comment vous avez été en rapport avec cette histoire incroyable du rapport Pileski ?
Alors, le rapport Pileski, il est venu dans mes mains grâce à Isabelle Davion, qui est historienne, qui est à une maîtresse de conférence à la Sorbonne, et qui avait travaillé donc sur les notes historiques de la traduction française, donc c'est en 2014, aux éditions Champvallon. Et comme c'est une amie aussi, et qu'on se voit de temps en temps pour discuter un peu de nos projets, et on s'était rencontrés juste après mon précédent album qui s'appelle Le Capitaine Tikhomirov, et elle me dit, peut-être que tu pourrais, toi qui travailles sur les conflits, sur le rapport entre la petite histoire et la grande histoire, lis ça, peut-être que tu pourrais en faire une adaptation. C'est ce que j'ai fait, j'ai été emporté par un récit, ce récit très factuel, sans pathos, qui décrit les choses, et ça m'intéressait de ce fait de me l'approprier.
Oui, parce que évidemment il y a la distance et la distance artistique, on va beaucoup insister là-dessus, oui. Mais revenons quand même sur cette histoire incroyable. Donc, de cet officier polonais, résistant, qui se fait volontairement prendre pour être à l'intérieur du camp, organiser la résistance, remonter le moral, organiser la l'entraide. Nourriture, les vêtements, l'entraide, pour donner aussi des nouvelles de ce qui se passe à l'intérieur du camp d'Auschwitz. Alors, disons-le, c'est dans la première partie, c'est-à-dire entre 1940 et 1943. Voilà. Finalement, il n'y a pas de résistance organisée parce que ça marche pas. Donc il s'évade et au sortir à la fin de la guerre, finalement il rédige un rapport et il mourra dans des circonstances assez terribles. Mais on va revenir là-dessus. L'histoire même de ce rapport, sans parler de ce qui se passe à Auschwitz, est absolument incroyable.
L'histoire qui est racontée dans le rapport, oui. Ce qui est intéressant, moi ce qui m'a intéressé, premier chef, c'est d'abord un récit d'espionnage. Un vrai récit d'espionnage, parce qu'il raconte comment il monte ses cellules, des cellules de 5 qui sont autonomes, qui sont censées ne pas se connaître, de manière à ce que si une cellule se fait prendre, on ne peut pas dénoncer les autres. Et en effet, la Gestapo avait une police à l'intérieur d'Auschwitz, qui recherchait justement ces résistants. On est au début, en effet, du camp d'Auschwitz. On est en septembre 1940. Le camp est essentiellement constitué de prisonniers polonais. Dans cette histoire, en effet, d'espionnage, donc il y avait le contexte d'Auschwitz. Et moi, avant que je m'engage, évidemment, sur le projet, je devais, pour moi, réfléchir à la manière dont j'allais raconter ce contexte du camp de concentration d'Auschwitz, Auschwitz 1, on ne parle pas de Birkenau, Birkenau sera construit après, mais Pileski, d'ailleurs, on a la connaissance et le notera dans son rapport. Et pour moi, il était important d'essayer, de construire une image, de m'approprier, de construire une nouvelle image, si je puis dire, qui raconte Auschwitz. Et je voulais surtout pas m'appuyer sur ce qu'on trouve sur Internet, sur Google, parce qu'hélas, je trouve que les images sont banalisées. De toute façon, tout ce qui est maintenant au niveau de l'image devient banalisé avec ce trop-plein d'images. Donc je suis allé sur place. Et pour moi, c'était important, avant de valider le fait que j'allais m'engager sur ce projet, que j'ai une expérience de terrain, Je viens du carnet de voyage, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai beaucoup raconté les choses par le dessin. Donc il fallait que j'aille sur place, évidemment, heureusement 70 ans après, il ne reste que les traces, mais ces traces, ce sont des stigmates aussi. Et il était intéressant pour moi justement de cheminer dans le camp, de me mettre sur la place d'appel, que Pileski a foulé 2500 fois, il le met dans son rapport. Donc j'ai essayé de rentrer aussi dans sa tête, qu'est-ce qu'il a vu, il a vu ses bâtiments, les briques, je regardais de près, de loin. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'est ce qu'il y avait autour du camp. Étant donné qu'il y a une évasion, étant donné aussi qu'il travaillait dans des camps, ce qu'on appelle les commandos, les ateliers étaient à l'extérieur.
Donc voilà. Il y avait tous les jours
des allées et venues. Voilà.
On rencontrait évidemment les habitants de la région.
Les habitants de la ville, ce que je raconte à un moment justement dans le récit.
Vous vous intéressez aux détails et aux choses en plan large et en plan resserré, puisqu'on faisait tout à l'heure allusion au cinéma, parce que tout ça viendra nourrir votre récit. Pendant 18 mois, vous avez travaillé à ce récit, le rapport W, Infiltré à Auschwitz, le nom de votre album, parce que vous collez évidemment le rapport et l'histoire, mais ça n'est pas un livre d'histoire, c'est une réinterprétation artistique.
Tout à fait. Évidemment, je pense que dans toute adaptation, il y a forcément une mise à distance. Donc la mise à distance, c'est celle de l'appropriation, du point de vue que l'auteur va avoir, en l'occurrence le mien. Et mon point de vue, alors, il y a un point de vue qui est lié évidemment à l'aspect humain. C'est une histoire c'est une aventure humaine dans un contexte inhumain. Donc voilà, je me suis interrogé sur la question de l'image. Ça c'est important, la BD c'est une image, c'est aussi du texte, donc comment collabore, comment s'articule, comment joue, comment match le rapport texte-image, notamment comment raconter des scènes d'ultra-violence, des scènes de massacre. Je voulais surtout pas tomber dans le voyeurisme, je voulais pas être dans le glauque, surrajouté dans le glauque, et pour moi, mon parti pris vis-à-vis du lecteur, parce que ce travail-là c'est pour un lectorat, c'était de déclencher un imaginaire ou un imaginable. Quelle part d'imaginable on peut avoir vis-à-vis de ce camp de concentration. C'était intéressant de le traiter. Donc, du coup, j'ai des postures qui vont de la métonymie, de la partie pour le tout, du rapport de cause à effet, c'est-à-dire que je donne des indices au lecteur à certains moments de l'histoire, notamment sur des scènes très dures, je ne les décris pas, ou alors je les décris par le texte. Mais en tout cas, l'image est là comme un appui, comme un déclencheur pour l'imaginaire du lecteur.
Et dans votre travail d'auteur, Gaëtan Nock, il y a évidemment le dessin, mais il y a évidemment, et c'est un travail époustouflant de couleurs et de mise en couleurs, et de mise en page. Donc ces trois choses viennent s'interpénétrer dans ce roman graphique. Comment est-ce que vous avez abordé votre travail ?
Alors, mon travail déjà, quand on adapte un récit, c'est d'abord un travail de texte. Pour moi en tout cas, l'image vient après. C'est-à-dire que je m'approprie le sujet, je le découpe, je vois les choses, que j'essaie d'hierarchiser ce qui pour moi est important à raconter. Et Dieu sait, si vous lisez le rapport Pileski, il y a énormément, énormément d'histoires. Donc il y a hélas des choses qu'on efface. Ce huis clos, j'ai voulu le traiter par le mouvement, dans l'esprit d'un voyage. C'est-à-dire qu'on est constamment dans un déplacement. Et ce déplacement, il peut être autant physique que psychique. Parce que j'ai joué en effet sur les souvenirs du héros, sur ses pensées, sur... voilà.
On le comprend et on voit avec quelle passion vous parlez de ce projet. J'imagine que la question de la responsabilité, c'est pas n'importe quel récit historique
que
vous êtes approprié, c'est ce camp Auschwitz, évidemment la résonance que ça a sur le 20e siècle et le 21e siècle. J'imagine que la question de la responsabilité de l'artiste que vous êtes a été titillée.
Ah bah bien sûr, c'est-à-dire que je travaille sur des sujets toujours de témoignages, pour l'instant en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, toujours liés à des conflits, notamment pour l'instant sur le 20e siècle. Et là, en effet, pour moi, je suis porteur d'une mémoire, je suis porteur d'un récit, et ce récit, il fait écho évidemment à l'actualité, à l'heure où les racismes, l'antisémitisme se banalise. Je reviens toujours à ce mot de banalisation, mais là, c'est vrai. Je pense qu'il est, il est temps de rappeler, et notamment par des médiums comme la bande dessinée et le roman graphique, qui sont des médiums assez, qui sont accessibles. Hein, c'est pas une thèse. Hein, et qui sera lu par quelques personnes, c'est quelque chose qui est plutôt grand public, et donc je pense que c'est un médium pour moi charnière pour faire passer des témoignages et des mémoires et faire réfléchir les gens.
Et puis en plus de votre roman graphique, il y a toute une postface, tout un dossier qui d'abord raconte l'histoire, rentre d'un point de vue plus historique que sur cet incroyable rapport Pileski. On y voit des dessins préparatoires, des croquis de voyage, des documents aussi, des reproductions en tout cas, des documents originaux sur lesquels vous avez travaillé. Donc
oui,
il y a effectivement un beau travail d'édition.
Oui, un beau travail d'édition, et puis c'est aussi un travail, j'ai tenu à ce que Isabelle Davion soit le conseil historique pour ce récit. Cette exigence autour d'un sujet de cette nature, je pense qu'on ne peut pas passer, on peut pas passer outre.
Voilà. J'imagine que, et ce sera pour terminer, on ne ressort pas indemne d'un tel projet.
Non, bah de toute façon, oui, il y a toujours un temps où, vous savez, moi, quand je termine un projet, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon, mais très très long, parce que je suis vraiment en immersion complète, je suis dans le sujet, j'y pense même la nuit, enfin voilà, c'est quelque chose qui est quasiment obsédant. Là, le livre est fini, ça y est, je suis rassuré. Hein, parce tant qu'on ne le voit pas, en vrai, là, il y a toujours du stress, il y a toujours du doute. Et maintenant, ce qu'il y a de plus beau, c'est de le défendre avec vous, avec d'autres chroniqueurs. Et je sais que maintenant, c'est dans les mains des lecteurs. C'est-à-dire que maintenant, il va faire sa vie. Il va y avoir des retours de lecture, il va y avoir des retours de journalistes, il va y avoir des questions. Mais voilà, et je laisse, c'est au lecteur maintenant de se l'approprier.
Merci en tout cas pour cet entretien.
Merci.
Gaëtan Nock, le rapport W infiltré à Auschwitz, donc une BD, un roman graphique absolument indispensable à mettre entre toutes les mains.
Thank you.
Le thème de Rhapsody in Blue, interprété là par Glenn Miller et son orchestre.
Les flics israéliens veulent nous interroger.
Oui, d'accord, bien sûr. Ils sont où ?
En Israël. On décolle dans 4 heures.
L'anecdote ciné du jour.
Vous connaissez certainement Chuck Norris, cet acteur américain vedette de films d'action et aussi célèbre pour être le sujet des Chuck Norris Facts, des aphorismes humoristiques créés et diffusés sur Internet par ses fans en son honneur malgré lui. Outre le fait qu'il a régulièrement tourné en Israël, notamment avec les deux producteurs Golan et Globus, Chuck Norris a dans ce pays un fan club aux proportions à nul autre pareil. Crédité de pouvoirs invincibles, voire surnaturels, certains ont fini par donner naissance à une communauté de disciples censés suivre ses enseignements. Réunis autour de son culte, des disciples organisent chaque année un cycle de colloques consacrés au mythe, dont les thèmes peuvent être par exemple l'influence théologico-philosophique de Chuck Norris sur la société israélienne. Si certains font ça par un humour absurde, d'autres affirment sans rire que la vérité selon Chuck Norris se trouve dans des films comme Braddock ou Delta Force 2, lesquels seraient les témoignages documentés d'une vérité subliminale. Pour certains universitaires, la vérité impose d'admettre que Chuck Norris s'est hissé au sommet du panthéon des faiseurs de miracles de notre temps. D'ailleurs, le député israélien Zvulun Kalfa avait déclaré que les pluies abondantes qui s'étaient abattues sur le pays étaient une conséquence des actions viriles de Chuck Norris. Le professeur Ami Atzronir et l'homme de médias Ariel Segal ont décidé d'organiser un colloque à Modi'in après que le visage de Chuck Norris leur soit conjointement apparu en rêve. Un aphorisme célèbre dit « Dieu croit en Chuck Norris ». Visiblement, certains Israéliens aussi. Moscovitch Remix, un titre d'Abraham Inc. sur Radio Aviva. Il est 17h. Vous l'avez compris avec ce générique, Fidèle au poste se termine pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour votre rendez-vous culture et pop culture de début d'après-midi. Bonne suite avec les programmes de Radio Judaïka et à demain.